Bonjour à tous. Je me permets, est-ce que je peux prendre le micro? J'ai l'habitude de faire comme ça. Ça vous dérange pas? Qui a fait la même chose?
Ils sont terribles. Alors je suis très heureux d'être avec vous ce matin,
avec mon épouse. J'ai entendu parler en bien de vous. Voilà, vraiment, c'est une joie d'être là. Et puis alors, d'autant plus que je vois des visages connus. Hein, je retrouve des visages connus et appréciés. Merci à Jean-Marc pour son invitation. Content de voir Laurent aussi. Ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas vu avec son épouse. Et je me souviens de Laurent lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Il m'invitait assez régulièrement sur Nantes, entouré de ses fils à table. J'avais l'impression d'être dans la maison de Jacob. Allez, de toute cette belle famille, cette grande famille, voilà, gloire à Dieu, hein, et content aussi de voir Agnès, bien sûr, et puis Jean-Louis, et je ne sais pas si Agnès le sait, mais elle m'a béni il y a de cela des années. J'avais été invité, quand ils étaient sur Saint-Malo à l'époque, j'avais été invité à partager la parole dans l'Assemblée de Dieu là-bas, à Saint-Malo. Et je passais par un moment très difficile, puisque notre fils aîné était parti en live, c'est le cas de le dire, comme disent les jeunes aujourd'hui, ça n'allait pas, on souffrait beaucoup, et puis j'ai voulu quand même honorer cette invitation, mais je suis allé dans cette assemblée complètement découragé, vidé, fatigué, n'ayant pas grand-chose à donner finalement. Ayant plus besoin de recevoir que de donner. Ça arrive, hein? Et puis, je me suis demandé pourquoi je devais aller à Saint-Malo. Je me suis dit, Seigneur, je vais y aller quand même. Et puis, j'ai apporté la parole. Et puis, après, j'ai retrouvé Agnès et Jean-Louis. Ils ne savaient pas ce par quoi nous passions. Je parle précisément avec Agnès, lui demandant des nouvelles de ses enfants. La fille, ça se passait bien, Sophie. Et puis, le garçon, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Et puis, Agnès me regarde avec des grands yeux, pleins de paix. Son visage rayonnait la paix. Et elle me dit, mais Daniel, nous avons remis notre garçon entre les mains de Jésus. Et elle avait utilisé ce terme assez surprenant. Nous l'avons soumis à la traque de Dieu. Je me souviens de cette expression. Nous l'avons soumis à la traque de Dieu. Et quand elle me disait ça, je voyais sa paix, je me disais, mais Seigneur, je sais pourquoi je suis allé à Saint-Malo. C'est de cela dont j'ai besoin. Moi qui étais tourmenté, fatigué, moi qui paniquais, et je suis reparti tout joyeux dans ma ville, parce que j'avais été réconforté. Quelques mois après, notre garçon se convertit, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu même. C'est formidable. Voilà. Alors, je ne suis pas dans le même état ce matin. Mais enfin, si vous avez quelque chose à me communiquer, hein, une parole du Seigneur que vous avez reçue sur le cœur, je suis preneur. Voilà, je suis preneur de la bénédiction. Vous aussi, hein. On va partager un texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Marc, au chapitre 8. Verset 35. Content aussi de voir Madame Taubois, ça fait plaisir. Et puis, tant d'autres visages. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, Marc 8, verset 35. Jésus dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » C'est un texte intéressant. On le relit ensemble. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Je pense que Jésus veut ici dire, voilà, celui qui veut sauvegarder tous ses intérêts avant toute chose, intérêts passant au-dessus des intérêts du royaume de Dieu, finalement, il croit gagner ? Non. Jésus lui dit, en fait, il perd tout. Mais celui qui perdra sa vie, celui qui sera à la disposition du maître, celui qui sera consacré au maître, qui aura bien compris les principes du royaume de Dieu et qui sans compromis cherchera avant tout à donner gloire à Jésus, peut-être pensera-t-il, celui-là, qu'il perd certaines choses de cette terre. Mais en réalité, il a tout compris, il a tout gagné. Je crois que c'est ça la pensée que le Seigneur veut ici partager. Et pour la traduire en des termes mathématiques, je suis nul en mathématiques, mais je me suis dit, pourquoi ne pas comprendre la pensée de Jésus de cette manière ? Il y a des plus au plan humain ou terrestre qui peuvent se transformer en moins au plan du royaume de Dieu, au regard de Dieu. Et il y a des moins que nous pourrions vivre sur cette terre parce qu'on a perdu certaines choses à cause du royaume qui deviennent des plus au regard de Dieu. Vous me suivez ? Il y a des plus qui en réalité sont des moins et il y a des moins qui se révèlent être des plus. Et je voudrais avec vous cheminer ce matin en réfléchissant sur cette pensée au travers d'illustrations, vous voyez, d'illustrations, des choses que j'ai parfois vécues de mon côté ou d'autres personnes ont vécues. Et cette vérité-là, elle doit s'imprégner vraiment dans notre cœur, si ce n'est déjà fait. Alors, on va lire dans Malachie, on va lire un certain nombre de textes bibliques. Malachie, chapitre 3, versets 14 à 18. Chapitre 3, versets 14 à 18. C'est un livre très intéressant, le livre de Malachie, avec des questions qui sont posées de la part de Dieu, de la part du peuple, et des réponses fort intéressantes. Et ici, voici ce que dit le Seigneur à son peuple au travers du prophète, Malachie 3, 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Un peu le même raisonnement qu'Azaph tenait dans le psaume 73. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant Dieu, devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et voici ce que dit le Seigneur. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ici, je crois qu'il est question d'un principe fondamental du royaume de Dieu, qu'est la fidélité. Un attachement profond, profondément ancré dans le cœur du Sauveur. Être fidèle envers et contre tout. Dans un monde qui a perdu tous ses repères. Il est important que l'Église, elle, garde les repères de Dieu. Être fidèle. Je connais une chrétienne qui, à l'époque, participait à un groupe de jeunesse dans l'Église et malheureusement, ce groupe de jeunesse était en déliquescence. Les jeunes partaient les uns après les autres. Et certaines jeunes femmes de cette époque-là allaient chercher l'amour, mais pas de la bonne manière. À l'extérieur, on ne trouve pas dans l'Église, on va trouver sans doute à l'extérieur. Voilà. Et puis cette jeune chrétienne, eh bien, a été sollicitée par ces autres personnes à sortir de l'Église. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais dans l'Église ? Tu ne trouveras jamais ton mari dans l'Église. Jamais tu le trouveras. Alors fais comme nous, viens avec nous, sors avec nous. Cette jeune femme est restée fidèle. attachée à Jésus. Et elle lisait souvent ce texte. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Dieu, celui qui ne le sert pas. Cette parole repassait dans son cœur. Et puis bien d'autres textes, notamment dans le livre des Proverbes. Elle est restée fidèle envers et contre tout, malgré les sollicitations, les tentations, les pressions, les oppressions sataniques. Pourtant, dans la famille, c'était difficile. Ses deux sœurs avaient abandonné l'Église, avaient abandonné le Seigneur, pour chercher aussi l'amour. Ah, elles ont trouvé l'amour, entre guillemets. Tout ça s'est traduit par des divorces, des catastrophes. Mais elle, elle est restée fidèle. Et un beau jour, un beau jeune homme est venu dans l'église. Il s'est converti. Et ces deux-là se sont aimés. Ce jeune homme, et puis il faut savoir qu'il avait une belle chevelure bouclée aussi. C'était moi. Les deux autres sœurs, après avoir vécu la Bérésina, sont revenus à Dieu, blessés. Et finalement, elles se sont dit, pourquoi on n'a pas fait comme notre grande sœur ? Mince ! Mais Dieu a compassion de ceux qui se repentent. Amen, hein ? Il relève ceux qui sont tombés. Gloire à Dieu ! La fidélité, c'est quelque chose de très important aux yeux du Seigneur, vous le savez. Anania, dit le livre de Néhémie au chapitre 7, chef de la citadelle de Jérusalem, il est écrit à son sujet « Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité ». Vous imaginez un peu ?« Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu ». Est-ce le témoignage du Saint-Esprit pour chacun de nous ? Est-ce le témoignage du Saint-Esprit pour moi ? Chacun doit s'examiner devant Dieu, hein, et dire, mais Seigneur, où en suis-je finalement ? Ouais. Que Dieu nous aide les uns et les autres. Un autre texte aussi dans Malachie, on reste dans Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Il y a des plus qui se transforment en moins, des moins qui se transforment en plus. Pour mon épouse, peut-être se disait-elle autrefois, mais oh, rester dans l'église là, mais c'est un moins pour moi. Peut-être s'est-elle posé la question ainsi, mais finalement ça s'est transformé en plus. La fidélité paye, alléluia. Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu ? C'est le Seigneur qui parle au travers du prophète. Vous me trompez. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On entend souvent des bien-aimés prier de cette manière-là, je l'ai fait aussi. Seigneur, n'as-tu pas dit dans ta parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. On a raison d'exprimer cette prière, mais est-ce qu'on tient compte du contexte de cette prière ? Voyez-vous ? Et c'est un contexte de dîmes et d'offrandes. Et Dieu est en train de dire à son peuple, si vous êtes fidèle dans ce domaine-là, si vous êtes généreux avec moi, je serai généreux avec vous. C'est aussi simple que cela. Nous avons eu le privilège de voir un adolescent se faire baptiser, il a de cela quelques années. Il aimait Jésus, il avait fait une belle expérience de rencontre avec le Seigneur. Et ce qui nous a vraiment surpris, dans le bon sens, c'est que nous étions à côté de lui, dans les rangs, au moment où il y avait le passage de la corbeille, des offrandes, on fait comme ça chez nous, vous voyez. Et ce petit jeune, il n'avait pas grand-chose, salaire, rien. Mais le peu qu'il avait, il l'avait mis de côté, vous savez pour qui ? Pour le Seigneur. Il a mis sa petite obole au moment du passage de la corbeille. nous avons été émerveillés. Un petit ado comme ça, qui honore Dieu avec le peu qu'il a, je crois que ça a eu du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Un frère gitan racontait que un jour, une maman gitane a dit à son petit gars, « Écoute, il faut que tu ailles voir tes frères dans la tente de la mission et tu leur diras ceci et cela. Et puis, écoute, je vais te donner 2 pièces. Une pièce pour le Seigneur, quand tu seras dans la tente de la mission, et puis une pièce pour toi, pour te récompenser de l'aide que tu m'apportes. » Le petit garçon était content, il avait ses 2 pièces. Savez-vous ce qu'il a fait ? En chemin, il a joué avec ses 2 pièces. Et à un moment donné, il y en a une qui est tombée dans la rigole et qui a disparu. Savez-vous ce qu'a dit le petit garçon ? « Mince, j'ai perdu la pièce du Seigneur. » Il n'a pas dit « j'ai perdu ma pièce », non, « j'ai perdu la pièce du Seigneur ». Et ce frère gitan vient nous interpeller pour dire « voyez-vous, quelle est notre mentalité finalement ?» Il y a des moins qui se transforment en plus. Et il y a des plus qui se transforment en moins. Ce n'est pas toujours évident de, parfois, au bout du mois, de donner quelque chose à Dieu. C'est pas facile toujours. Mais nous savons que c'est pour le Seigneur que nous le faisons. Et il y a une bénédiction à la clé. D'ailleurs, Jésus dit, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ne croyez-vous pas que les richesses de ce monde sont des richesses entachées d'injustice ? Le billet que vous avez à la main, quand vous en avez un, on ne sait pas par quelle autre main celui-ci est passé. Vrai ou pas ? On ne sait pas. Peut-être est-il passé entre les mains d'une prostituée, on ne sait rien. D'un proxénète, on ne sait pas tout cela. Ce sont des richesses injustes, finalement. Ce ne sont pas les richesses de Dieu, mais nous sommes sur la terre. Néanmoins, le Seigneur dit, faites-vous des amis avec ces richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Prenons un exemple. Jean-Marc, votre pasteur, vous dit, voilà, il va y avoir une mission dans tel pays. On connaît bien le frère qui est là-bas, il va évangéliser, il va travailler. Est-ce que nous pourrions l'aider ? Ah, vous êtes d'accord ? Oui, Jean-Marc, oui, oui, oui. Et puis, vous allez donner quelque chose pour collaborer à cette mission, pour l'achat de Bibles, etc., tous les frais occasionnés par cette mission. Et voilà que, au cours de cette mission, il y a un homme qu'on pourrait appeler Hamid, qui se convertit, gloire à Dieu. Il se donne à Jésus. Oh, c'est formidable. Et puis, Hamid meurt plus tard, et puis il va dans le ciel, et nous aussi on meurt. On va dans le ciel. J'imagine, hein. Ce n'est pas dans la Bible ce que je suis en train de vous dire, mais j'imagine. Et voilà Hamid qui s'approche de Jean-Marc. Il dit, Jean-Marc, tu es mon ami. Ah bon, mais Hamid, je ne te connais pas, moi. Moi, j'habitais Kevin, toi, tu habitais je ne sais pas où, là-bas. Tu es mon ami parce que, grâce à l'appel que tu as fait, il y a eu des fonds qui ont permis que cette mission se passe bien. J'ai reçu une Bible, j'ai entendu un prédicateur. Au travers de lui, j'ai été sauvé pour l'éternité. Tu es mon ami. Je t'accueille dans les tabernacles éternels. Alléluia. Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Amen. On va plus loin. Luc 10, versets 25 à 29. Luc 10, versets 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire ?» Ah, faire, pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain, comme toi-même. » « Ah, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, oh, pour un juif dire cela, un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. C'est une parabole fort, fort intéressante qui nous parle de compassion à l'égard de notre prochain. D'amour à l'égard de notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, le Seigneur délivre une parabole qu'on vient de lire. Et la question est intéressante, puisque le Seigneur dit, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Autrement dit, Jésus est en train de dire, tu dois être le prochain de ton prochain. Vous me suivez, hein ? Tu dois être le prochain de ton prochain. Finalement, aimer son prochain ne nous engage à rien, vous comprenez ? C'est un aspect, si on veut dire, passif, d'une vérité importante. Mais oui, j'aime mon prochain. J'aime mon prochain. Ça ne m'engage à rien, finalement. Par contre, si je deviens le prochain de mon prochain, là, c'est l'aspect actif de cette vérité. Et c'est important pour vous comme pour moi, pour chacun de nous, d'entrer dans cette dimension de l'action à l'égard de notre prochain. L'Église de Jésus-Christ doit entrer dans cette action. Vous le croyez aussi ? C'est important, hein ? Dans cette action. Non pas pour mériter quoi que ce soit, mais pour mettre en application cette vérité biblique. Ça coûte. D'ailleurs, il y a un célèbre théologien, Dietrich Bonhoeffer, qui parlait de la grâce coûteuse. Ça coûte. On est sauvé, gloire à Dieu. Mais on est sauvé pour quoi ? En tous les cas, sur cette terre, c'est pour accomplir une mission à l'égard de notre prochain, pour qu'il soit sauvé, alléluia, mais aussi pour qu'il soit au bénéfice de notre amour et de notre compassion. Dans les 2 multiplications des pains, vous en souvenez sans doute, il est dit dans la première multiplication que Jésus avait compassion de toute cette foule parce que ces gens-là étaient comme des brebis sans berger. C'est l'aspect spirituel, vous voyez ? Des brebis sans berger. Ils ont besoin d'un berger. Je suis le bon berger, dit Jésus. Et puis dans la 2e multiplication des pains, pour les 4000 hommes, il est encore parlé de compassion, mais cette fois-ci sous un autre angle. Il est dit, Jésus avait compassion de la foule parce que cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Et là, c'est l'aspect plus matériel, vous voyez ? C'est un intérêt pour les besoins physiques de l'être humain. Et les 2 se rejoignent bien finalement. La compassion pour, en ce qui concerne tout au moins le domaine spirituel, on a compassion de ces brebis qui se perdent autour de nous, puis la compassion pour les besoins d'ordre physique. Et l'Église peut répondre à l'ensemble de ces besoins avec la grâce de Dieu. Dans une église comme la vôtre ou comme là où je suis aussi, un jour est entré un garçon visiblement qui avait perdu ses repères. À l'époque, vous savez, il y avait les cheveux longs et tout ça. Il n'était pas bien habillé, un peu rebelle. Le culte avait commencé et puis ce jeune homme n'avait pas de place où s'asseoir. Savez-vous où il s'est assis? Imaginons que ça se passe ici, là, par terre. Alors que le prédicateur faisait son sermon, vous imaginez, ça se passe ce matin comme ça, quelqu'un entre, c'est plein, là, il n'y a pas de place, et puis ben, le garçon il va s'asseoir là. C'était gênant. Vous seriez gêné? Ben oui, moi je serais gêné, qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Et puis il y a un frère dans l'auditoire, un homme de Dieu, un homme fidèle, qui avait un bon témoignage dans l'église. On pourrait appeler un frère ancien, vous voyez. Âgé, il se lève, assez difficilement parce que il n'avait plus la force d'antan, il se lève. Et tout à coup, dans l'auditoire, les gens se sont dit, « Ouh là là, monsieur un tel se lève, qu'est-ce qui va se passer ?» Il va à côté du jeune homme. Il s'assoit à côté de lui. Et puis le jeune homme le regarde et lui dit, « Ça vous dérange que je suis là ?» Et cet homme de lui dire, « Non, je m'assois à côté de toi parce que je ne veux pas que tu sois seul. » Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi dans l'église. Dieu est un Dieu d'ordre, on est d'accord, on ne peut pas tout tolérer, tout accepter, évidemment. Mais vous savez, ce jour-là, ce n'est pas tant le message que l'auditoire a retenu, mais ce qui s'était passé entre ces deux personnes. Et les frères et les sœurs ont essentiellement parlé de cela après, au cours du repas du midi, suite à ce culte marquant. Mais moi, je crois que c'est cet état d'esprit qui doit animer l'enfant de Dieu, vous ne croyez pas? Alors oui, ce pouvait être un moins pour ce monsieur. Il est sorti de sa zone de confort. C'était plus facile de se positionner en spectateur et de ne pas prendre de responsabilité, vous voyez. Mais ce moins-là s'est transformé en plus. Quelle bénédiction pour ce jeune homme. Alléluia. Merci Seigneur. On connaît aujourd'hui des frères qui sont dans le ministère depuis bien des années, qui ont porté beaucoup de fruits. Je pense à Guy, Laurent, Guy Berga, et d'autres, toute une équipe d'anciens hippies. Et c'est incroyable parce que le pasteur de cette époque-là, dans la ville où ils étaient, avaient vraiment reçu cette compassion de Dieu. On n'a peut-être pas tous reçu cette même mesure, vous voyez, mais c'était le temps de Dieu avec un homme de Dieu précis, voilà. Et ces jeunes sont arrivés avec leurs chiens dans l'église, des hippies. Et il y avait notamment une petite mamie dans l'église qui les accueillait, qui les bénissait, qui les accompagnait. Et le pasteur a été patient, patient. Vraiment patient. Et toute cette bande de hippies se sont convertis à Jésus-Christ. Ils sont quasiment tous devenus pasteurs. Ouais. C'est incroyable. Hein, la compassion. Ça coûte. Voilà, ça coûte. Il faut prendre sur soi. On sort de sa zone de confort. Ça peut être, d'un point de vue humain, un moins. Mais ces moins se transformeront toujours en plus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra finalement. Il perd tout, il perd des bénédictions qui sont là, la clé, quand on applique ce principe biblique. Et il y a des plus qui se transforment en moins. Une dernière pensée? Oui, ça va? Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15. Oui. On va toucher un domaine là, pas facile, hein, pas facile, mais qui est au cœur de l'évangile aussi. Matthieu 6, 14 à 15, voici ce que dit Jésus. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est le cœur de l'Évangile, vous êtes d'accord avec moi. Nous sommes des hommes et des femmes qui ont été pardonnés. Nous ne méritions rien si ce n'est la condamnation éternelle. Et sans Jésus, nous sommes irrémédiablement perdus. Mais nous sommes au bénéfice de ce pardon extraordinaire, incompréhensible, sur la base de l'amour de Jésus. Gloire à Dieu. Et puisque nous sommes au bénéfice de ce pardon constant, Jésus nous dit, ben, toi aussi pardonne. Pas toujours facile. Je ne m'abaisserai pas. C'est elle qui a tort. C'est lui, c'est pas moi. Hein, dans une vie de couple parfois, hein, ou avec nos enfants. Il nous est arrivé avec mon épouse de demander pardon à nos enfants pour certaines choses. Et on a peut-être été trop fort parfois, trop exigeant. On leur a demandé pardon pour ça. Et je crois qu'ils ont apprécié. Et ils nous disaient, oui, effectivement, papa, là, t'es un peu fort quand même avec nous, là. Vous voyez ? Et ça nécessitait une démarche. Un moins peut-être, comment un père qui s'abaisse comme ça à l'égard de son enfant, ben, ce sont des moins qui se sont transformés en plus. Et pour ne pas l'avoir fait, certains parents, pour rester sur leur position, ben, c'est un plus à leurs yeux qui s'est transformé en moins au regard des enfants. Vous voyez ? On gagne toujours, mais vous comprenez ce terme, hein, bibliquement, là, gagner. On gagne avec Christ quand on accomplit ce qu'il nous dit. Que Dieu nous aide. Parce qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu dans ce domaine-là. Je suis en train de m'exhorter. Nous avons un cher collègue qui nous disait que... il ne parlait jamais de son beau-père. Parce que dès lors qu'il parlait de son beau-père, son épouse, donc le papa de son épouse, c'était épidermique, son épouse réagissait. Ne me parle pas de lui. Je ne supporte pas. Ne me parle pas de lui. Bon. Et ce cher frère a dit à son épouse à un moment donné, écoute, ça ne peut pas durer. Alors, ce papa avait été terrible puisque, alors que son épouse était petite, l'épouse du frère dont je vous parle était petite, son papa, cette femme-là, a laissé tomber toute la famille pour partir avec quelqu'un d'autre. Jamais une carte d'anniversaire, jamais un coup de téléphone, rien, c'était vraiment l'abandon total. Et du coup, évidemment, quand on parlait de lui, eh bien cette femme ne supportait pas. C'était comme une sorte de reniement, voyez, la part de cette dame. Mais son mari lui a dit, écoute, ça ne peut pas durer, il faut que nous fassions une démarche. Je ne veux plus entendre parler de lui, je ne le connais pas. Ils ont prié et puis cette pensée s'est imposée à son cœur de faire une démarche à l'égard de son père. Ils ont réussi à retrouver ses traces, ils ont pris rendez-vous et puis ils se sont retrouvés. Voilà, il y a eu une conversation, ils se sont pardonnés réciproquement. Peu de temps après, cet homme est mort. Et notre sœur a eu un songe, une nuit, où elle a vu le visage de son père. Je crois vraiment que ça venait de Dieu. Elle a vu le visage de son père. Et celui-ci, regardant sa fille, lui disait « Merci ». Ce qui a amené la sœur à penser que cet homme avait trouvé la vie éternelle. Parce qu'évidemment, les bien-aimés avaient rendu témoignage de Jésus. Et ont expliqué le fait que si on est là devant toi, c'est parce que le Seigneur nous le demande. Ça a dû travailler le cœur de cet homme. Il en a été bouleversé. Et on peut penser qu'il a accepté Jésus dans son cœur pour être sauvé. Voyez-vous, quand on pardonne, on se libère soi-même. C'est un fait. On se libère soi-même. Mais on peut aussi amener à la libération de la personne à qui nous pardonnons. Et si nous ne le faisons pas, il y a quelque chose de lié, finalement. Quelque chose de lié. Et c'est un droit du diable sur la personne. Alors que Dieu nous aide, les uns et les autres, à transformer peut-être nos moins en plus au regard de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que moi je veux sauvegarder? Ai-je des intérêts à défendre à tout prix? Est-ce que ce sont les choses de la terre qui doivent prévaloir dans ma vie? Non, Seigneur, c'est ta volonté avant tout. C'est ton cœur que je veux partager. Ce sont tes pensées avant tout, afin de t'être agréable et de marcher dans tes voies. Que je sois ton plaisir, Seigneur. Ce n'est pas facile, mais tu vas m'aider. Amen. On prie ensemble. Merci, Seigneur, pour ces quelques pensées que tu as permis que je partage avec mes frères et sœurs. Ô Jésus, tu as des choses à nous dire, à nous rappeler, et nous te prions pour que ces choses dites